Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 dopsons.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
La scène se passe sur un parking de supermarché où une blonde est près de sa voiture et elle pleure, elle pleure. Un monsieur donc vient la voir et lui dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous pleurez ?» Elle lui dit « Regardez, on m'a fait une grosse bosse sur la portière de ma voiture. » « Oh, il ne faut pas pleurer pour ça. Je vais vous donner une combine pour la réparer, mais vous allez voir, ça va aller vite. » « Comment on fait ?»« Ben, c'est simple, vous soufflez dans le tuyau d'échappement. »« Ah bon ? Ça a marché ?»« Oui, pas de problème, ça va faire rentrer l'air dans la voiture et la bosse va reprendre sa place. » Ah bon ? Bon, alors, elle se met derrière la voiture, elle commence à souffler dans tout l'échappement, et arrive sa copine, qui est blonde également, et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Ben, elle dit « Je suis en train de réparer ma bosse, ce qui est sur la porte d'air de la voiture. » Ben, elle dit « Ça marchera jamais, » lui dit sa copine. « Ben, pourquoi ça marcherait pas ? Ben, forcément, t'as laissé la fenêtre ouverte. »
Aujourd'hui, une émission sur le choix et ses conséquences. Libre-arbitre, liberté... Le choix est inhérent, remords, regrets, compromis, ma femme ou ma belle-mère, arbitraire, consécutif, subi, le non-choix, assumé, incontrôlable, dépendance, vote, mirage, mode de vie, responsabilité, hypothèse, indécis, que choisir, mironton ou barjabule, consentement, décision, indépendant, pour ou contre, chemin, destin, fatalité, choix partagé, choix par défaut, dictature, nécessité, aveuglement, amour, hormones, confiance en soi, effet, réaction, sanction, le bon et le mauvais choix, la morale, subir un choix, conseil, Evelyne Thomas, politique, philosophie, dilemme, le choix de Sophie, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. En bref, il y a des fois qu'on n'a pas le choix. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question du choix et de ses conséquences. Mais qu'est-ce qu'un choix ? D'après Jean Mouloud de Larousse, la principale définition du choix est l'action de choisir quelque chose, quelqu'un, de le prendre de préférence aux autres et le résultat de cette action. Exemple, le choix d'un métier, d'un collaborateur. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe quand on a fait un choix ? Et quelles peuvent en être les conséquences ? On a coutume de dire que la vie est une histoire de compromis, mais de compromis entre quoi et quoi ? Pour répondre à ces épineuses questions, nous interviewerons aujourd'hui, dans quelques minutes, notre expert, M. Jean Le Saulnier, docteur ès lettres.
Alors, au sommaire de cette émission... Une interview choisie aux questions hasardeuses, des lectures volontaires et d'office de l'atelier du poids des mots, une petite recette de cuisine choisie en toute inconscience et assumée, un micro-trottoir déambulé au bon vouloir des badauds, des musiques sans conséquence, un épisode du Narvalo fortement inspiré de la littérature du XVIIe siècle, une minute du pôle aléatoire, une cascade de mots s'enfiler à la demande générale. Et pour vous servir aujourd'hui, nous avons Stéphane, Didier, Rémi, Rémix, Jean, Jacouille, Jean-Roger, Isabelle, Béatrice, Vivien et Timothée et Cory.
Une petite lecture du point des mots. Genre humain, fais partie de ton destin. Fais face à ton destin, évite les conflits. Échappe au désespoir et dans un grand badaboum, tombe dans un poème, un haïku, abrutis-toi de couleurs ou d'odeurs apéritives, suis ton chemin.
Il n'a aucune chance.
bosse avec elle, je l'ai prévenue. Mais veux essayer quand même. Il est têtu. Il ne veut pas des mecs en C, me sourit d'un air entendu. Puis s'en va recevoir sa peine, le cœur léger, la joue tendue. Il ne m'écoute jamais, il fait ce qui lui plaît. Quand encore ne connaît ni remords ni regrets. Qu'il n'attend pas. Il tient les serments, les promesses. Vaut de l'or pur, vaut des reins. Trahi, il en tombe sur les fesses. Mais pense plus le lendemain. Il ne m'écoute jamais. Il fait ce qui lui plaît. Quand encore ne connaît ni remords ni regrets. Chaque jour qui se lève, se frotte les mains. Il n'a pas tu de la lumière, même dans les coins. Il se jette la tête la première, sans hésiter, sans prendre soin. Pour la journée, il ne veut pas des méconseils, monsieur le nez entendu. Oui, ça va recevoir sa peine, le cœur léger, la joue tendue. Il ne m'écoute jamais, il fait ce qui lui plaît. Quand on ne connaît ni remords, ni regrets.
D'écouter Stéphane Escher, ni remords ni regrets.
Pour répondre à nos questions sur le thème du choix et de ses conséquences, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Jean Le Saulnier, docteur ès-lettres de la Sorbonne, chercheur spécialisé dans l'histoire du XVIIe siècle. Alors bonjour.
Bonjour.
Alors première question, très facile, comment définir le choix?
Facile en effet.
Oui, n'est-ce pas?
Le choix, c'est une alternative ou bien une possibilité de répondre par oui ou par non. Une possibilité d'aller vers l'un ou vers l'autre.
Alors, pour éviter de choisir les questions, on va essayer de les tirer au sort aujourd'hui. Je vais vous demander de tirer au sort une première question, puis on va vous la lire. Jean-Roger.
Est-on toujours responsable de ses choix?
Non, pas forcément.
Et pourquoi?
Parce que on peut être déterminé à choisir ceci ou cela.
Bon, on va tirer une deuxième question. Merci. Alors la question, qu'est-ce qui peut entrer en jeu dans la réflexion qui précède un choix.
Alors, qu'est-ce qui peut entrer en jeu ? Sa propre personnalité, la personnalité de celui qui est en face de l'autre, et puis on va voir la suite.
D'accord. Une troisième question. Merci.
Stéphane, je peux poser une question ?
Ah, une question dans le public.
Voilà. Quelle probabilité a cette dame de sortir le numéro 7 ?
Alors là, est-ce qu'il y a un choix ?
Voilà. Il y a un choix.
On nous demande quelle probabilité il y a de sortir un numéro 7 avec un dé ?
Ben oui.
Assez peu, je dirais.
Le choix est fait, alors.
Voilà.
Monsieur le professeur, peut-on échapper aux conséquences de ces choix ? Et si oui, comment ?
Oui, on peut échapper à certaines conséquences. Comment ? Ça dépend des circonstances. Ça dépend de la personne qui provoque la position de ce choix.
Par exemple ?
Par exemple, si c'est un homme ou une femme, un supérieur ou un inférieur.
J'allais vous demander de retirer une question. Merci. Quelle est l'influence de notre société, de notre culture dans nos choix ? Alors effectivement, c'est le poids de la culture. Ça rejoint un peu la question sur ce qu'il y a à prendre en compte pour faire un choix.
Oui, en effet, la culture, c'est par exemple tout ce qui nous est indiqué ou infligé par la radio. Et ces temps-ci, par exemple, on nous a dit qu'il ne fallait pas trop manger de viande rouge.
C'est très dangereux.
Très dangereux. Ou qu'il faut manger que des végétaux, ou si vous êtes végétarien ou végétalien. Donc, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas libre de manger autre chose que ce qu'on nous a indiqué dans les journaux, ou à la radio, ou à la télévision.
Est-ce qu'on peut avoir l'impression de faire quand même un choix dans ces conditions ?
Oui, on peut avoir l'impression de faire un choix.
Quand on fait un choix, a-t-on toujours en tête la sanction ou la récompense qui peut en découler ?
Non, pas forcément. Parce que certains choix sont bien assumés. Donc, si je choisis de prendre la voiture plutôt que le vélo pour aller faire un tour en forêt, j'ai pas forcément en tête la récompense ou la punition ou la sanction.
Et là, vous enlevez la notion de regret.
De
regret dans le choix.
Oui, oui.
Demander une autre question. Merci. Ah, est-on toujours conscient de ses choix ? Donc on l'a un peu abordé peut-être avec la radio, mais au-delà de ça.
En principe, on est conscient de ses choix.
Oui, en principe.
Mais pas forcément toujours. Parce que quand je fais le choix de boire un verre d'eau ou de boire un verre de vin, je suis conscient de la réalité. Et pourtant, les conséquences ne suivront pas toujours.
La voyance, l'horoscope, les virtuels, sont-ils des moyens d'anticiper les effets ou les conséquences de ces choix ?
On pourrait le penser. On pourrait le penser, mais la voyance, c'est peut-être un métier, c'est peut-être une activité, mais elle est d'une certaine façon indépendante de mon propre choix. Si certains y croient, j'allais dire tant mieux pour eux, Mais moi, j'ai la possibilité de ne pas accepter les choix ou les indications de cette voyante.
Et pourquoi faire seulement fait appel pour un choix, une voyante, où on sait que, par exemple, François Mitterrand consultait une astrologue, même pour des grandes décisions?
C'était ses choix.
Oui.
Mais c'est vrai que... Pardon, vous avez dit au début, pourquoi est-ce qu'on fait
Pourquoi appel pour un choix, oui, faire appel à une voyante, astrologue ou autre?
C'est qu'on n'est pas sûr de son propre... De son propre avenir ou de son propre présent pour faire tel ou tel choix. Mais François Mitterrand, il avait peut-être raison, mais on n'est pas obligé de le suivre.
Donc on va écouter maintenant un micro-trottoir sur le thème donc, du choix et de ses conséquences.
Sur quoi et comment vous basez-vous pour faire vos choix?
Sur quel
sur quoi et comment vous basez-vous?
Sur mes choix, l'envie.
Oui.
Si c'est au niveau des gousesses, le charme. Oui. Pas de la beauté. Je déteste la beauté, je préfère largement le charme.
Ah, ça dépend du sujet, ça. Voilà. Si j'hésite, si je peux en parler autour de moi, je peux appeler ma famille, mes amis, il n'y a pas de souci, quoi. Il y a des choses que je ne peux pas obligatoirement penser, qu'eux, ils vont penser, voilà.
Eh bien, tout dépend de ce que j'ai à choisir. C'est assez varié, c'est assez vague. Si on parle, par exemple, automobile, il va y avoir le côté financier qui va intervenir. Si on parle d'un voyage, ça va être un coup de cœur. Bon, c'est ça peut être différent suivant le sujet que l'on va aborder.
Sur mon expérience.
Sur la vie de mes proches, souvent, pour justement ne pas prendre une décision trop hâtive.
Je me prends pas trop la tête en fait.
Sur quoi me baser Non, je sais pas.
Oui, c'est de l'instant, on va dire, oui, c'est ça. Mais c'est dur comme question. J'ai pas de recul. Là, donc...
Des fois c'est instinctif, ça vient du bon sens, et puis parfois ça demande à. Je sais pas, est-ce qu'on concerte d'autres personnes, peut-être aussi, pour faire son choix?
Tout dépend après de ce qu'on veut acheter. Si c'est pour une voiture, après si c'est des aliments, enfin pour faire les courses, tout dépend en fait. Je regarde l'année, enfin c'est des kilomètres, ça vaut le coup. Voilà.
Pour le prix.
Sur la couleur des yeux de la vendeuse.
Alors, je vais vous demander si vous avez des réactions sur ce qu'on vient d'entendre, sur les façons de faire un choix.
Oui, j'ai été sensible au fait que quelqu'un dise on fait appel à la famille, on se demande oui. Si la femme, les enfants sont d'accord ou non.
Est-ce le non-choix est-il un choix?
Oui, d'une certaine manière, le non-choix est un choix, puisqu'on est toujours dans le domaine du choix.
On a choisi de ne pas choisir.
On a choisi de ne pas choisir ou de choisir.
Donc c'est quand même un choix.
C'est quand même un choix.
Je vais vous demander de tirer une autre question. Merci. Alors, comment faire un choix éclairé? Ça rejoint le micro-trottoir. Quelles aides peut-on trouver alors dans la religion, la philosophie, où on a parlé d'astrologie, de voyance, ou s'en remettre au hasard?
J'ai envie de répondre en faisant appel à un souvenir littéraire. On a dit que j'avais travaillé sur le XVIIe siècle. Et je pense à quelqu'un dont vous avez certainement entendu le nom, c'est Racine. Oui. Racine, grand auteur de tragédie. Et ce Racine a été, quand il était jeune, éduqué par des gens qui étaient rattachés à l'abbaye de Port-Royal, c'est-à-dire des religieux ou des solitaires, et qui lui avaient donné une certaine indication pour vivre et pour travailler, pour écrire. Et puis à un moment donné, Racine a rompu avec eux. Il a fait un choix qui n'était pas celui de ses formateurs ou de ses éducateurs. Alors ça l'a conduit assez loin, puisque il s'est mis à écrire des tragédies alors que ses éducateurs ne l'étaient pas, n'étaient pas forcément favorables à ça. Ça l'a conduit aussi dans les bras de certaines maîtresses. Et puis, il a fait d'autres choix, à savoir qu'il est revenu. Il a quitté la tragédie, il est revenu dans le domaine ordinaire, il s'est marié, et puis même il a été le lecteur d'histoire pour le roi de France Louis XIV, ce qui était quand même extraordinaire, parce que donc il a fait un certain nombre de choix en fonction ou non des gens qui étaient autour de lui.
Donc le choix, il peut y avoir beaucoup de choix pour la même personne, selon les temps ou les époques ou...
Tout à fait, oui. Et c'est le cas de l'exemple que je donnais à l'instant.
C'est à moi. Comment apprend-on à faire un choix? Est-ce qu'on peut apprendre à faire un choix?
Oui, je crois qu'on peut apprendre à faire un choix en prenant de la distance par rapport à celui qui vous présente le choix, par rapport à la question posée.
On a perdu une question, on en prend une autre.
Thé ou café?
Ouf. Ça dépend des moments.
Lesquels?
Matin, midi ou soir?
Ah bah, c'est dans la même veine, le verre à moitié vide ou à moitié plein?
Ça dépend de la situation où on se trouve. Si on se trouve en dessus ou en dessous. Si on se trouve en dessus, on ne sait pas s'il est vide ou plein. On ne sait pas si c'est du vin ou de l'eau.
Oui, on va retirer notre question.
Qu'est-ce qui peut empêcher à quelqu'un de faire un choix? Ou en quelque sorte, quels sont les éléments qui peuvent empêcher quelqu'un à faire un choix?
Si cette personne n'est pas en bonne forme physique, ou en bonne forme morale, mentale, donc je peux être empêché de faire un choix parce que je ne vois pas toutes les conséquences du fameux choix en question.
Oui, on retire une question, merci. Alors, ah, ça peut être plus littéraire là. Sans choix, est-ce qu'il n'y a sans choix, il n'y a pas d'histoire? Point d'interrogation.
Oui, oui, d'une certaine façon.
Oui, justement. Alors, je vous lis la suite. Cette question, entre guillemets, entre parenthèses du choix, a-t-elle été exploitée par la littérature?
Est-ce oui, qu'on
oui. Beaucoup d'exemples.
Oui, oui.
Choix.
Régulièrement. Je prenais le cas de Racine, mais ouais. On pourrait prendre le cas d'un autre écrivain qui s'appelait Pascal, qui était à la fois un écrivain philosophe et en même temps un scientifique. C'est celui qui, on l'a oublié, a par exemple inventé les carrosses à 5 sols, c'est-à-dire à Paris, les fameux transports publics.
Et on parle souvent de choix cornélien. Encore une référence.
Corneille est un autre auteur de tragédie que j'aime moins bien que Racine. Alors j'aime mieux parler de Racine.
C'est votre choix.
C'est mon choix.
Monsieur le professeur, est-ce que avez-vous eu le choix de venir ici? Ou tout simplement, si vous en avez eu, le regrettez-vous?
Oui, oui, j'ai eu le choix de venir ici ou de ne pas venir. Bon, bien sûr, j'ai été un peu incité à le faire, invité à le faire, et je ne le regrette pas du tout.
Donc, pas.
Bah, la dernière.
Allez, pour la forme, on tire la dernière question. Merci. Ah, alors là, c'est encore très compliqué. Fromage ou dessert?
Quand je n'ai pas trop mangé ou pas trop bien mangé, je prends les deux. Sinon, je garde le dessert.
Il y a des choix, oui, dont on se passerait. Jean-Roger. Alors, non, pas de questions du public. Alors, je vous remercie donc, d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Merci.
Je rappelle, on recevait donc Jean Le Saulnier, docteur S-lettres à la Sorbonne et chercheur spécialisé dans l'histoire du XVIIe siècle. Merci.
Plaisir d'écouter Sharon Jones, Sunday, Sunday.
Et maintenant, nous allons retrouver donc la petite cuisine rapide aujourd'hui, puisque donc le temps de cuisson sera de 11 minutes en tout.
Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc préparer donc une cuisine. La cuisine, donc, elle est pour les gourmands hein, et pour les feignants, parce que hein, donc, c'est pas trop long. Et c'est vite fait. Donc, préparation de la cuisine, donc, c'est 5 minutes. La cuisson, vous voyez, c'est 6 minutes. Donc, ce qui nous fait un temps total de 11 minutes. Alors, du point de vue ingrédients, donc, le gâteau que nous allons faire donc, est pour 5 personnes. Il nous faut donc 150 g de chocolat, 80 g de beurre, 3 œufs, 100 g de sucre en poudre, 60 g de farine, 10 centilitres de lait, une cuillère à café de levure. Nous allons donc commencer par faire fondre le chocolat et le beurre. Prends 150 g de chocolat et 90 g de beurre. Alors nous cassons le voilà, donc là nous allons recouper donc en postiche au micro-ondes. Donc four chaud, donc je vous dis.
Préchauffage du four micro-ondes.
Ensuite, on prend les œufs, on bat les œufs avec le sucre jusqu'à ce que cela se mélange et devienne blanc.
1, 2. Aujourd'hui, on a de la main d'œuvre, ça va. Une main d'œuvre très qualifiée, hein, faut préciser. Encore une. Ouais. Ensuite, une fois que les œufs sont cassés, il faut battre les œufs avec le sucre.
Alors maintenant que nous avons donc cassé les œufs, nous allons battre les œufs avec le sucre jusqu'à obtenir donc un mélange blanchâtre.
Un creux de main, oui, une petite astuce, si vous n'avez pas donc, de quoi mesurer la quantité de sucre, vous mettez un peu de sucre dans votre main, ça représente 20 grammes. Donc, dans le cas présent, donc, il nous faut 5 mois.
Alors, on ajoute maintenant la farine, la levure et le lait. Alors, dans quelle quantité ? 60 g de farine. 60 g. Hein, pas 58, 60. Alors, 60 g de farine, la levure et le lait, pardon. La levure et ensuite le lait. 10 centilitres de lait. Voilà, nous mélangeons donc la levure avec l'ensemble. Ensuite, on rajoute le lait.
Ensuite, il faut verser dans un moule à cake, pardon, bien beurré. Un moule à cake, on ne veut pas.
Quand nous aurons fait le mélange, on fera cuire donc au micro-ondes durant 6 minutes à pleine puissance. Important pour finir, attendez 5 minutes avant de démouler. Une fois qu'il est cuit, bien entendu.
Et maintenant, une petite lecture par Rémi. Un logo rallye. La vraie bus mène aux autocars. Les autocars mènent au voyage. Les voyages mènent au retard. Les retards mènent à la nuit mène à la lumière d'un rubis, le rubis mène à la sortie de la nuit mène en chemin, le chemin mène au voyage, et les voyages mènent aux chaussures.
Le syndicat des victimes fréquente les pacifistes inoculés avec l'ectogramme pour simuler les blessures béantes des simulacres de la vie. Dans les dédales des tunnels trapézoïdales, uniformes et totalement obsolètes et embués, on aperçut une trachéotomie, des fentes bronchiales au visage démesuré, produisant un système amphithéotique. À l'hôtel de la Monnaie, à la réception, par Xenia, des portraits de Greta Garbo pour fondre les momies par Brancusi.
Thank you.
what is that?
I got you a Christmas present.
Christmas present?
Yeah.
But this ain't Christmas. Why, this ain't nothing but Christmas Eve.
Oh, Willie.
Huh?
Got a Christmas tree with a star on top. It's shining bright. It just won't stop.
Yeah.
You can hang your stocking in my tree.
Then it will be for the treat. Mama, wait and see.
Oh, yeah. Oh, Willie, it ain't fair. I've been waiting all year.
Oh, tell me about it. I don't want to wait no more.
Oh, I got you the best present.
You did?
Come under the mistletoe now. It gives you a peep at it.
Oh, hold on a minute, baby. Listen. Christmas comes. But once a year, go to sleep, don't have no fear. When I rise in a little while, I will give you bread and we'll make you smile.
C'était C.W. Stone King qui nous chantait avec un peu d'avance On a Christmas Day.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
On sait jeudi 29 octobre futuriste, moderniste, post-aujourdhuiste, punkiste. Nos deux aventuriers ont été téléportés et atterrissent au milieu des entrailles de la Terre. Enfin, une grotte.
Où sommes-nous ?
Ah ah ! Surprise !
Un an de plus, c'est la fête aujourd'hui.
Pour ton anniversaire, ouvre bien grande tes oreilles et descends et entends bien avec tes yeux. Je t'offre un concert privé et unique de Michael Jackson. Tata!
C'est quoi ces tambours? Ça fait trop roi de la pop, quand même.
À cet instant, et sous un feu d'artifice des météoristes, surgit de la grotte une toute petite bonne femme, ni blanche, ni noire, ni blonde, ni brune, ni belle, ni moche, ni vieille, ni jeune.
Mais c'est quoi ça? Un croisement de Mimi Mati et de Demis Roussos, mais version plus moche.
Moi, Lucie. Moi, faire concert à vous.
Et en ces moments précis, Narvalo comprend qu'il a perdu Jackson et gagné Jackpot.
Bon ben, je me suis un petit peu plantée là, je crois. Hein. Oh, tu vas pas m'en faire une tourte au sanglier, hein? Ok, on repart alors?
Attends, on va emmener la petite, si on la rase un peu... Une bonne tunique, ça fera l'affaire, mais pif, en moins, on tient le retour de Michael Jackson.
Youquette réprogramme son cerveau bioconverteur temporel. Morgane, alias la meuf de Merlin, accueille le petit groupe.
Il y a fort longtemps que je vous attends. Ma flaque de boue divinatoire ne m'avait pas trahi.
Moi, pas comprendre, qu'est pas ça?
Narvalo se tourne vers Youquette.
Oups, je me suis encore plantée. Bon, on se casse direct sans passer par la case d'épargne et sans toucher à la rue des Champs-Élysées. Bah, dis, Bah, qu'est-ce que c'est ce bazar là? Je peux plus décoller.
Bienvenue les amis, je suis la magnifique, la divine, la splendide Morgane. Je vous contrains à rester ici. Je vous laisserai partir quand vous aurez réglé son compte à ce satané foutu enfoiré belliqueux et en plus pas poli de Merlin qui m'a cocu avec cette guenièvre. Je vous présente mes subordonnés.
Je me présente, je suis Zanzen Wong. Je suis le moine bouddhiste le plus populaire du cosmos. Je suis spécialiste, est-ce lévitation objectale.
Kizako les cocos, moi pas capicho.
Lévitation objectale, télékinésie quoi.
Ah ouais, ok.
Je suis Brooke, maître musicien à la maîtrise du feu.
Wow, génialus.
Je ne me sépare jamais de mon zippo.
Je suis le chevalier Lancelot, champion de la veuve et d'orphelin. Et j'ai le pouvoir de vous endormir, sans somnifère, en vous saoulant avec mes paroles.
Je suis Tarzan, maître de la jungle et de ses environs. Je peux provoquer des hémorragies internes avec la puissance de mes cris. Oh, 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 oh.
Elle est où, Tita?
Ben voilà, une belle brochette de champion.
Moi, je suis Vivi, la nymphette grecque.
Barbu, la nymphette.
Et alors? Je suis votre scribe. Si vous avez des problèmes avec vos impôts, téléphonez-moi.
Contraint, forcé, obligé, Youket et les Narvalo assistent à la fête organisée par la satanée Morgane.
Mais il n'y a pas besoin de nous contraindre, s'il y a du monde, à zigouiller. Je suis toujours partant.
Chouette, toutes ces réjouissances m'ont ouvert l'appétit.
Y a-t-il de l'éléphant grillé au moins?
Oh, moi, je suis plutôt avide de poésie.
Je peux vous jouer un morceau de lyre?
Non. Je suis Michael Lucy Jackson.
Lucy a donc été relookée par Christina Cordula. Elle est épiée. Elle est épilée, désinfectée et embaumée au Chanel numéro 8. Elle ressemble presque au portrait craché de Michael Jackson. Et elle devient la cible de tous les pouvoirs des invités suite à ses performances vocales dignes d'une castafiore d'opérette. Les concerts commencent. Le résultat est épouvantable. L'auditoire souffre et cherche des solutions pour mettre fin à ses supplices. Le moine Zanzen Long envisage de bombarder Michael Lucy Jackson de Dolmens. Lancelot s'élance dans la lecture intégrale de Jean-Bob Brust. Tarzan pousse son cri. Brooke y fout le feu. Mais Lucy a revêtu son costume de palette ignifugé. Youket se jette sur une chaise qui lui tend la main. Comment le spectacle finira-t-il alors que le show must go on? Le docteur Conrad Morail, spécialiste S-Star, nouveau pif, pourra-t-il abréger cette souffrance avec un grand S? Mais qui a tué Youket? Pour le savoir, rendez-vous au prochain épisode, la prochaine fois, le 26 novembre, à peu près à la même heure.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Quand vous faites un choix, prenez-vous une décision rapide ou avez-vous besoin de réfléchir longtemps?
Un peu trop rapide même. Un peu trop rapide le choix. J'arrive pas à tout mettre en mémoire, mais ouais, ça peut arriver qu'il y ait des conséquences négatives sur les choix. Sur énormément de choses, quoi, c'est aléatoire, mais c'est sûr qu'il faudrait mieux plus prendre son temps, comme on dit, tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Ou...
Comme a dit un certain auteur, mais je ne sais plus lequel, une fois j'ai pris ma décision, j'hésite longuement. Donc en général, je réfléchis avant, longuement, suivant l'importance de la décision à prendre.
Bah, généralement, quand je prends une décision, je réfléchis quand même avant de prendre...
J'ai besoin de temps.
Tout dépend du choix à prendre et de la question posée, à se poser, de la question à se poser. En général, c'est réfléchi.
Donc, dans beaucoup de sujets.
sur le choix de mes femmes, le choix des gens que j'aime et que j'aime pas, c'est très rapide. J'ai la chance, l'honneur, l'avantage de pas aimer les cons.
Ah ben, ça dépend de la situation. Des fois, ça peut être rapide, comme ça a besoin de réflexion.
Ça dépend sur quel sujet.
D'accord.
Ça a besoin de réfléchir beaucoup.
Pas du tout.
Yo-yo ?
Non. Pour ce qui est rapidement. Oui.
Impulsif, je suis. Ouais. Alors, tu vois, c'est le coup de sang. Tac, c'est tout de suite.
Et vous rappelez-vous d'un choix important dans votre vie et quelles en ont été les conséquences ?
Oui, mes deux mariages.
Et les conséquences ?
Désastreuses pour la première, pour le deuxième. Pour le deuxième. Autrement, pas trop de choix importants dans ma vie.
Oui, c'est important, oui. Une ex que j'ai eue et que j'ai fait le con. Du coup, j'ai pris le mauvais choix. Et je pense que maintenant, je serai encore avec elle, je pense, oui. Donc ça, on s'en rend compte qu'après, quoi.
Un choix important dans ma vie. Oui, un choix de carrière. Et les conséquences en ont été que j'ai perdu mon emploi et j'étais obligé de retourner à l'école pour avoir un emploi correct.
Oh oui, c'était une erreur.
Et on a déjà ces conséquences.
Oui, de gros conséquences. J'ai acheté une maison avec certaines personnes et j'aurais pas pensé qu'elle aurait fait des choses derrière mon dos. Voilà. D'accord. Donc j'aurais pu réfléchir effectivement, mais bon.
Mon enfant, mon fils, avec ma première femme, j'ai eu cinq femmes après, j'en ai usé cinq, devrais-je dire, et aujourd'hui je suis célibataire. Quel bel homme!
Oui, alors ça j'en subis encore les conséquences, hein. Je suis marié depuis 59, c'est mon choix le plus important. Ça dépend des jours.
Vous savez, c'est jamais ni tout blanc, ni tout noir.
À choisir, vaut-il mieux avoir des remords ou des regrets ?
Je pense qu'il faut mieux avoir ni l'un ni l'autre. Mais bon, peut-être plus des regrets.
Ni l'un ni l'autre.
Je pense aucun des deux, faut pas regretter. Faut aller de l'avant, quoi. C'est sûr qu'on regrette sur le coup, mais faut arrêter d'y penser. Faut avancer. Après ça, moi, c'est sûr que j'ai eu des remords, mais faut avancer, sinon, faut pas vivre dans le passé, quoi.
Faut mieux avoir des regrets, je pense. Mais je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Mais je pense que vaut mieux avoir des regrets que des remords. Avoir des remords, c'est dire qu'on a peut-être mal agi ou pas agi comme il fallait. Des regrets, on est passé à côté de quelque chose. Alors à choisir, il vaut mieux avoir des regrets pour moi que d'avoir des remords. C'est mon opinion.
J'aurais des regrets, mais après les remords, on se dit est-ce qu'on aurait dû faire, est-ce qu'on n'aurait pas dû. Mais les regrets, bon, au moins on les a faites. Après, voilà.
Vaut mieux avoir des remords, je pense.
Je ne sais pas. Franchement, des regrets alors.
Des regrets, parce que des remords c'est plus fort et c'est vraiment les grosses, je dis les plus que les grosses conneries. Voilà. D'accord. Alors les remords, c'est pas pour moi.
Ah, ça c'est difficile, ça c'est philosophique. Faut mieux avoir des regrets, je trouve, que des remords.
Des remords ou regrets. Quelques regrets certainement, parce que j'ai plus des regrets que des remords. Le regret, c'est quand on a aimé, quand on a choisi et que malheureusement ça s'est pas passé. Ou ça n'a pas continué dans ce qu'on avait voulu faire. Le remords, non.
Watch your mouth.
C'était le Very Bad Michael Jackson. Boum, badaboum, entrée fracassante du tombeur de ces dames. Un peu flambeur, un peu branleur, totalement macho. Il déclame quelques haïkus improvisés pour la belle Sakura, après avoir sauvé Tokyo d'une attaque de ninja nazi mutant. Et ce n'était que l'apéritif. Cet après-midi, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Il va devoir éviter la Troisième Guerre mondiale, qui risque d'éclater suite au conflit entre les États-Unis et les terroristes de la secte des francs-maçons vampires. Et demain, ce sera encore pire. Il le sait bien, il a intercepté des communications secrètes du Pentagone. Il se prépare déjà à repousser l'invasion extraterrestre des martiens cannibales loups-garous, qui menacent toute l'espèce humaine. Encore une fois, le destin de la Terre repose sur ses épaules puissamment musclées. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi le monde change-t-il soudain de couleur ? La peau devient bleue, le ciel rouge, les routes vertes et soudain, plus rien, le néant. Est-ce la fin du monde tant redouté ? Se pourrait-il qu'il n'ait pas pu sauver l'humanité cette fois-ci ? Le désespoir commence à se lire sur son visage, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à identifier l'ennemi. « Maman, cet abruti de chat a encore débranché ma PlayStation !»
Alors, la minute du pôle. Alors, quand on a choisi le thème « Le choix et ses conséquences », deux associations me sont alors venues. D'abord, une référence philosophique avec la fable de l'âne Buridan, et également une référence psychanalytique avec la clinique de la névrose obsessionnelle, nommée aussi « Folie du doute ». Alors d'abord, l'âne de Buridan, c'est une fable philosophique mettant en scène un âne qui se laisse mourir de faim faute d'avoir pu choisir entre un plat d'avoine et un seau d'eau. C'est, contrairement à ce que l'on croit généralement, une preuve par l'absurde que dans la réalité, le choix se fait toujours et qu'il y a un dynamisme de l'acte indépendant de tout motif objectif. Selon Buridan, philosophe du Moyen-Âge, lorsque plusieurs choix s'offrent à nous, nous optons généralement pour celui qui nous semble nous apporter le plus grand bien. Si deux situations nous paraissent équivalentes, l'expérience nous montre que nous faisons quand même un choix, sinon de se retrouver dans la situation absurde de l'âne. Nous avons donc la liberté de pouvoir choisir spontanément, échappant ainsi à tout déterminisme. La théorie psychanalytique nous apporte également un éclairage particulier sur ce qui a été qualifié notamment comme folie du doute. C'est lors de sa conception de l'appareil psychique que Freud dégage la névrose obsessionnelle comme entité clinique, qui l'isole alors de la névrose hystérique et de la névrose phobique. Je vais définir rapidement la névrose. C'est une affection psychogène où les symptômes sont l'expression symbolique d'un conflit psychique, trouvant ses racines dans l'histoire infantile du sujet et constituant des compromis entre le désir et la défense. Les symptômes névrotiques ont donc un sens caché et une valeur protectrice contre l'angoisse générée par le conflit entre des exigences pulsionnelles contradictoires ou des exigences pulsionnelles et des exigences morales. Pour illustrer un petit peu, je vais prendre des exemples très simples. J'adore les religieuses au café, mais je veux rentrer dans mon maillot de bain cet été, donc je ne vais pas en manger tous les jours. Je suis dans le métro, je trouve très joli le collier de ma voisine, mais je ne vais pas céder à mon désir de lui arracher gentiment. Donc, ce sont des exemples très simples. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué, mais voilà, ça illustre un petit peu ce que peut être un conflit psychique. Si l'expérience de la réalité et le sentiment d'identité ne sont pas altérés chez le sujet névrosé, la tension générée par la lutte du conflit intrapsychique peut engendrer une souffrance morale et entraver de manière plus ou moins envahissante la vie relationnelle et sociale du sujet. Le sujet va alors mettre en place des défenses plus ou moins efficaces pour se protéger de ses angoisses. Pour illustrer ce propos simplement, revenons à l'enfance. Nous avons tous l'expérience du charmant bambin qui se vit comme un petit prince pour qui le monde tourne autour de lui. L'expérience de la vie, les frustrations, la vie en collectivité, la transmission des règles par l'éducation vont conduire le petit homme à réguler ses désirs. Alors là, petite pause. Donc la vie nous amène tous les jours à faire des choix, du plus simple au plus complexe. Nous avons à faire des compromis entre nos envies, nos désirs et les exigences morales et sociales. Alors le névrosé obsessionnel dans tout ça pourrait être élu super champion dans la catégorie prise de décision et de choix. Dans la névrose obsessionnelle, le conflit psychique s'exprime par des symptômes dits compulsionnels et par un mode de pensée caractérisé par le doute, la rumination mentale, les scrupules et peut aboutir à des inhibitions de la pensée et de l'action. Alors, dans le temps qui nous est donné, j'ai fait le choix, après quelques ruminations et doutes moi-même, de vous décrire quelques extraits de la symptomatologie de cette névrose, les obsessions, les compulsions et les rituels de vérification. On va tous pouvoir un petit peu s'y retrouver, je crois. Le sujet se sent assiégé par des obsessions, idées, groupes d'idées, représentations. Sa raison reste intacte, ses pensées lui paraissent absurdes ou répréhensible, et génère un sentiment pénible de tension interne et une lutte anxieuse pour en venir à bout. On distingue trois formes d'obsession, des obsessions idéatives, les pensées s'imposent au sujet sur un mode interrogatif et conduisent à une rumination interminable, des scrupules et un certain perfectionnisme. Donc ça peut être la crainte d'avoir commis ou de commettre certains actes, la crainte qu'une simple pensée hostile envers une personne ne se réalise. Les obsessions phobiques, ce sont des objets ou des situations dont la simple évocation engendre de l'angoisse. On trouve, en exemple, fréquemment des préoccupations concernant la propreté, la contamination par les microbes, la peur de contracter une maladie transmissible ou une affection grave. L'angoisse peut également être provoquée par certaines situations, certains lieux. la peur de rougir en public, par exemple. La mise en place de défenses de type évitement de la situation ou de l'objet peut entraver de manière envahissante et handicapée et handicapante la vie du sujet. On pense par exemple à une phobie des pigeons, une phobie des voitures, ça peut être très dérangeant. Et enfin, les obsessions impulsives ou les phobies d'impulsion. Elles se manifestent par la peur de commettre, contre sa propre volonté, un acte absurde, incongru, ridicule, immoral ou violent. Ça peut être la peur de prononcer des insultes, de blesser une personne à la vue d'un objet contondant. Les compulsions. Alors les compulsions, le sujet ne peut s'empêcher d'accomplir certains actes ou certaines pensées, même s'il les juge absurdes ou honteuses. Ce symptôme peut se fixer sur des gestes anodins de la vie quotidienne, mais peuvent aussi s'ancrer et devenir handicapantes. Exemple, besoin de disposer certains objets à une place précise, d'exécuter mentalement ou par écrit certains calculs ou certaines phrases, ne pas poser le pied sur les marques de jointure d'un carrelage en espérant la réalisation d'un désir. Enfin, les rituels et les vérifications. Ce sont des actes que le sujet se sent contraint d'exécuter, tout en les considérant comme excessives ou inutiles. Le contraste entre l'importance à l'observance absolue et nécessaire de cet acte et sa futilité n'échappe pas au sujet et peut entraîner un sentiment de honte et une certaine souffrance. Alors, pour conclure, j'espère avoir semé en vous quelques interrogations et quelques doutes et peut-être vous amener à découvrir un peu plus la psychanalyse. Je voudrais terminer en vous disant que entreprendre un travail de psychothérapie nécessite un certain courage, celui d'affronter et d'accepter d'être responsable de ce qu'on dit et de ce qu'on est, et peut-être de faire le choix de ne plus subir ces symptômes.
En conclusion, nous espérons que cette heure passée donc en notre compagnie vous aura permis de vous défendre, que vous ayez ou non des décisions importantes à prendre. Nous remercions encore M. Jean Le Saulnier pour ses réponses éclairantes à nos interrogations sur le thème du choix et de ses conséquences. Nous remercions également toute l'équipe d'Ozone Libre, une équipe haute en couleurs et en mots, ainsi que l'équipe de Principe Actif, les superbes JC, Timothée et Damien. Notre prochaine émission le jeudi 26 novembre de 12h30 à 13h30, toujours sur Principe Actif. Si vous souhaitez donc nous réécouter, n'hésitez pas donc à rechercher le podcast sur leprincipeactif.net. Au passage, vous pourrez nous laisser vos messages que nous lirons avec plaisir. Il est à présent 13h30, ou un tout petit peu plus. En conséquence, nous n'avons pas d'autre choix que de rendre l'antenne. À bientôt.